Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Patrick Flandrin, bien connu de ce micro, puisque c'est la quatrième fois, je pense, que nous parlons ensemble.
Oui, la quatrième.
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'intelligence artificielle sous le regard de la vérité.
Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord, on le tue, puis on s'habitue.
On a tous plus ou moins joué avec ChatGPT et parfois qu'on est furieux parce qu'il nous raconte des choses fausses.
Tout à fait.
Que penses-tu de cette influence de l'intelligence artificielle sur notre image du vrai ?
Et c'est assez compliqué parce qu'il y a à la fois la question de ce que l'intelligence artificielle produit, puis il y a aussi la façon dont nous, on la reçoit. Un des écueils avec l'intelligence artificielle, souvent, enfin dans les systèmes génératifs de type ChatGPT, c'est que ça prend des allures de conversation conviviale, polie, etc., à qui on a envie de faire confiance, en fait, et on a envie de croire ce qu'on nous dit.
Quand il nous répond par « Oh, pardon, je me suis trompé, excusez-moi ».
Voilà, et qui nous repropose une autre solution qui est différente, dont on se demande en quoi elle serait forcément meilleure que la première, qu'on a un peu envie de faire confiance, alors que ce sont, au départ, ces systèmes-là, des modèles qui n'ont pas du tout la vérité en ligne de mire, puisque c'est essentiellement des approches statistiques qui fournissent des réponses les plus probables par rapport à tout un ensemble de choses qu'ils ont appris, et puis de contextes où ils pensent ressortir une proposition qui est une proposition qui fait le sens le plus probable.
Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté.
Qu'est-ce qu'on fait face à ce flux d'informations où on ne sait que dire, ChatGPT nous dit un truc, on le croit sans le croire, quel conseil tu donnerais à nos auditeurs?
Enfin, moi, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas utiliser ces outils à tort et à travers, et en particulier, il ne faut pas les utiliser comme substitut pur et simple à d'autres outils de recherche, de type ce qu'on avait avant, les moteurs de recherche, qui nous renvoient à des sources qui sont théoriquement des sources plus certifiées, où on a des informations qui ont été vérifiées, labellisées par des experts, ou en tout cas, qui ont été croisées par suffisamment de regards pour qu'on se dise que les erreurs qui seraient des erreurs flagrantes n'auraient pas échappé au regard de ces experts. En plus, pour des raisons bassement économiques et, on va dire, presque écologiques, faire une requête pour demander un résultat factuel à une intelligence artificielle comme ChatGPT coûte infiniment plus cher que demander un moteur de recherche traditionnel. Donc, si on veut savoir en quelle année s'est passée la bataille de Marignan, il vaut mieux demander à Google, qui peut-être le demandera à Wikipédia, renverra sur Wikipédia, mais plutôt que de le demander à ChatGPT.
Il peut se tromper.
Alors, après, on arrive sur cette question qui est comment est-ce qu'on définit la vérité ?
C'est le sujet de ce podcast.
Le premier qui dit la vérité, il doit être...
Déjà, je crois qu'il y a une différence entre la notion peut-être de vérité et d'objectivité. Et pour beaucoup de faits, il y a une appréciation qui peut être objective, qui justement s'assoit sur des faits, qui essaie d'approcher la vérité. C'est exactement comme quand on dit qu'on croise des sources. Pour s'assurer de quelque chose, on lit une information qui est une information qui semble très étonnante. Bah, avant de l'accepter ou de la propager, on va peut-être te dire, tiens, est-ce que quelqu'un d'autre dit la même chose ? Alors on va chercher d'où ça vient, si d'autres sont d'accord, et puis après on arrive plus à un concept d'intersubjectivité qui fait que d'une certaine façon, il y a une forme de consensus de plus en plus large qui s'établit, qui tente à dire que oui, il y a une vérité derrière ce qui est énoncé. En science, de toute façon, souvent la démarche, c'est pas vraiment de prouver quelque chose est juste, c'est plutôt de prouver quelque chose est faux. Parce que c'est plus facile de prouver la fausseté d'un résultat, si on se rapporte même à Popper, hein, la falsifiabilité, on dit qu'une théorie est scientifique si elle porte en elle la possibilité de proposer quelque chose qui l'atteste et qui montre que le résultat n'est pas vérifié. Et c'est plus facile de vérifier ça que de s'assurer que quelque chose est vrai, parce qu'il peut y avoir d'une certaine façon une infinité d'explications qui sont compatibles avec les faits observés.
À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les traîtres.
Alors, est-ce que justement l'intelligence artificielle a des outils pour ça, pour démontrer une fausseté ?
C'est encore une fois, l'intelligence artificielle ne fait pas tout seule, elle fait aussi ce qu'on lui demande, et elle le fait par rapport à ce qu'on lui apprend. Là où il y a un très gros problème en ce moment, c'est que l'intelligence artificielle, pour l'essentiel, dans sa partie en particulier générative, elle repose sur de l'apprentissage. Plus il y a d'apprentissage, plus d'une certaine façon... on sait quelque chose dont on peut penser que bon, c'est des résultats qui sont des résultats avérés, même si on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, et peut-être avant apprentissage. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, elle a ce problème qu'elle crée en elle-même des nouvelles données. Et en ce moment, un grand travers, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, et Wikipédia, par exemple, a une approche intéressante là-dessus en ce moment, parce que la plateforme est inondée de faux contenus. Et c'est des faux contenus qui sont simplement faux parce qu'ils sont générés par des intelligences artificielles. Si on prend le processus en disant « j'ai un corpus de connaissances, donc pré-ChatGPT, sur lequel je construis des réponses probables à des questions qui me sont posées », ça va me faire une génération de nouvelles données qui ensuite, quand elles vont être reprises comme entrée des systèmes suivants, vont d'une certaine façon, si on ne fait rien, reproduire de plus en plus la même chose. Donc si on met des choses qui sont fausses là-dedans, il y aura de plus en plus de choses fausses.
Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité.
Tu me dis que Wikipédia reçoit un grand nombre, disons, de propositions de nouveaux articles, oui, ou de nouvelles informations totalement construites par l'intelligence,
oui,
artificielle,
oui,
et
oui,
donc qui ne sont pas vérifiées.
Alors,
de
voilà,
même
donc,
manière.
Récemment, là, ils ont pris une prise de position, ils ont explicité cette prise de position en disant qu'ils s'attelaient à ce problème, en disant on ne peut pas ignorer l'intelligence artificielle. On ne va pas remplacer purement et simplement, mais par contre, on va faire avec l'intelligence artificielle pour garder, comme on dit toujours, l'humain au centre du système et pour dédier à l'intelligence artificielle des tâches qui sont des tâches automatiques qui, elles, sont vérifiables. Mais il y a ce problème de fond qui est que des faux contenus peuvent toujours exister et cela, il y a toujours un besoin de croiser des sources et de recourir à des humains. Donc c'est un mélange entre les deux, de l'intelligence artificielle et de la vérification humaine qui se met en place. Mais les grands journaux aussi, hein, je crois que les grands quotidiens font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont recours à des outils d'intelligence artificielle parce qu'il y a des quantités de données de plus en plus gigantesques qu'il faut absorber, et en même temps, on ne peut pas leur faire confiance aveuglément, donc on ne peut pas les ignorer, et en même temps, on ne peut pas leur faire confiance, donc il faut qu'on trouve des moyens de les contrôler, et en tout cas de vérifier, de croiser les sources.
À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le gros.
Est-ce que tu penses que l'une des questions qui est en jeu est peut-être la perception psychologique qu'on a de ce qu'est la vérité ? Quand nous étions petits, toi et moi, il y avait un concept de vérité en quelque sorte totalement abstrait, presque philosophique, platonicien, je ne sais quoi. Et on essayait de s'y astreindre. Et puis là, on a l'impression que tout change. Le vrai, c'est plus vraiment quelque chose de relié à cet absolu.
Non, parce qu'on voyait aussi, bon, si on joue Platon, on voyait aussi la manifestation du vrai par le beau. Le beau et la splendeur du vrai, disait Platon. On n'était pas dans un monde où on construisait autant de vérité possible que le monde dans lequel on est maintenant, avec les vérités alternatives, les faits, etc. C'est quand même assez, même presque amusant, si ce n'était pas un peu triste, que le réseau que Donald Trump a lancé après son bannissement de Twitter s'appelle Truth Social. C'est un réseau qui revendique la vérité, alors que c'est un réseau dont on sait qu'il est porteur de contre-vérité, au sens factuel. Et c'est vrai que c'est un brouillage avec lequel on a beaucoup de mal à se débrouiller.
Le poète a dit la vérité.
Tu parlais essentiellement de la vérité chez les scientifiques, chez les intellectuels, mais est-ce que la vérité chez l'homme ou la femme de la rue est en jeu ?
Moi, il me semble que ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire que plus on délègue à des machines ou à des intelligences artificielles le pouvoir de choisir, de décider ou autre, d'une certaine façon, on lui laisse décider ce qu'est la vérité de ce qui nous intéresse. Et le danger, il est un peu qu'il y a une facilité à se rapporter à ces outils, parce que c'est beaucoup plus facile de demander, voilà, dis-moi quelle est la meilleure solution pour faire quelque chose, et puis de s'en remettre à ça, sans chercher par soi-même à savoir s'il y en a une autre. Et comme, en fait, ces machines, elles ont en ce moment le don de faire des choses d'une manière qui est assez proche du langage de l'interaction humaine, bon, on a tendance un petit peu facilement à les croire et à leur demander ce qu'il en est et de se dire que c'est plus facile d'engager une conversation avec une machine peut-être que juste de poser une question. En même temps, je suis un peu étonné parce que je vois que maintenant se multiplient par exemple dans les musées des trucs qui sont un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'à la sortie d'une exposition, on voit qu'on peut avoir accès à une intelligence artificielle avec laquelle on va virtuellement discuter avec les artistes qui sont exposés. Les artistes de siècles passés, hein. Donc, bon.
Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme.
Bon, donne-moi un brin d'optimisme. On est foutu ou qu'est-ce qui va se passer ?
Non, on n'est jamais foutu. Non, on n'est pas du tout. Au contraire, là où on serait foutu, c'est de dire qu'on est dépassé par les outils, qu'il n'y a rien à faire et qu'on baisse les bras et on abandonne. Alors que dire que les outils doivent être compris, donc là, il y a une part qui est une part, je pense, liée à l'éducation, c'est-à-dire faire avec et non pas faire contre, c'est sûrement quelque chose qui est possible. Moi, je suis toujours un petit peu sceptique sur ce qu'il en est, par exemple, pour la créativité des machines. Mais en même temps, il y a des choses qui se font justement en compagnonnage avec les artistes. Là, j'entendais hier Blancali qui fait des spectacles avec une intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Mais c'est une coopération. Ce qu'elle dit, c'est que c'est son œuvre. Après, l'IA est utilisée comme un outil qui permet de donner corps et de donner vie à l'œuvre, mais ce n'est pas un substitut et ce n'est pas quelque chose que l'on délègue. On ne délègue pas à l'IA avec l'illusion que parce qu'on aurait juste mis un prompt en demandant quelque chose, il nous en sortira quelque chose de formidable.
Disparus qui un jour ont dit non, dans la mort propice, leurs corps s'évanouissent, on ne se souvient ni de leurs yeux ni de leur nom, leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure.
Patrick, tu parlais tout à l'heure de parler avec des artistes du passé, du siècle passé. Je te propose un petit jeu. Parle à ton scientifique préféré. Parle à Fourier. Je suis Fourier, qu'est-ce que tu lui demandes ?
Moi, je lui demanderais, mais c'est incroyable, avec ses travaux extraordinaires, pourquoi il ne s'est pas intéressé à l'acoustique ? Parce que si on regarde le traité de Fourier, maintenant, Fourier est universellement utilisé dans tous les domaines, justement, par exemple, du traitement de la voix, etc., de la musique et de l'acoustique, sur la base des outils que Fourier a développés pour autre chose, pour la théorie de la chaleur, et il s'y est visiblement jamais intéressé. Je serais curieux de savoir si c'est juste parce que c'était quelque chose qui était en dehors, parce qu'il était passé à autre chose, ou bien c'est parce qu'il n'en avait pas eu l'idée, ce qui m'étonnerait quand même, ou bien parce que ça ne l'intéressait pas plus que ça.
Comme tu le sais, à la fin de ces interviews, je pose toujours la même question. Quelle musique tu pourrais me proposer relative à la vérité ?
C'est une très bonne question à laquelle je ne m'étais pas préparé. J'ai un peu de mal, moi. Je vais faire une facilité, puisque je me souviens que quand j'étais enfant ou jeune, il y avait une chanson de Guy Béard qui disait « Le premier qui a dit la vérité, il sera exécuté ». Encore une fois, c'est pas très optimiste. Hein.
Non, t'es en train de me rappeler des souvenirs d'enfance aussi. Oui, tout à fait, oui. On est à peu près le même âge, oui. Voilà, alors on entendait ça à la télévision, à l'ORTF.
Ce soir avec vous, j'ai enfin la règle du jeu. J'ai enfin la règle des moineaux des aigles. Vous avez très peur pour moi, car vous savez que je risque vos murmures. Automate mûre, ma chanson a dit. la vérité, vous allez m'exécuter.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.